Les paris RMC.
PMU.fr, paris sportifs, paris hippiques, poker.
Avec Benoît Boutron qui nous rejoint. Salut Benoît.
Salut à tous.
Salut les grandes gueules. Benoît.
Juste un petit mot parce que je vois le programme des paris OMI. On ne parle pas du tout de golf. Il n'y a pas de cotes sur.
Alors il y a des cotes proposées. Malheureusement, j'aurais bien aimé parier sur la Ryder Cup, mais les cotes sont extrêmement déséquilibrées puisque l'Europe mène 10 à 6. La victoire européenne, c'est seulement 1-0-2. Alors est-ce que ça vaut le coup de le jouer? Pas sûr. Hein.
Je sais pas. Pardon, Julien.
On doit pouvoir parier sur les matchs.
Oui, sur les matchs.
Sur les simples, de ouais, la Ryder
Cup. Je vérifie si on peut parier sur les matchs en direct. Je vais regarder ça.
Par exemple, Tiger Woods, est-ce qu'il va gagner son duel tout à l'heure. C'est intéressant. Bon, on verra ça. Tu nous en dis un petit peu plus dans quelques instants. Benoît, on s'intéresse au rugby avec donc la suite de la journée des derbies. Et aujourd'hui, c'est le derby francilien, le derby parisien. C'est comme on veut. C'est Stade Français Racing.
Exactement. Et Thomas Lombard est avec nous pour en parler. Salut Thomas. Voilà, Thomas qui est avec nous donc pour ce Stade Français Racing 92. Ce sera à 16h50. C'est un vrai derby celui-ci et un derby à enjeu, on le rappelle, puisque le Stade Français est deuxième du top 14. Le Racing est cinquième. On a un grand favori dans ce match, c'est le Stade Français à 1,32, 2,90 pour le Racing. Thomas, c'est un match de haut de tableau, avantage de Stade Français, sachant que Zebo, l'un des meilleurs joueurs du Racing depuis le début de saison, est absent en plus.
Ouais, on peut le voir comme ça. Après, bon, il y a aussi les courbes hein, de performance qui sont plutôt très intéressantes et très bonnes du côté du Stade Français. Par la déconvenue à Clermont il y a quelques semaines, le bilan est très très positif. Il y a un vrai bras de fer hein, qui est en train de se nouer et de se livrer entre les deux clubs. Donc l'importance de rester maître chez soi. Et de pas interrompre la série, hein, puisque Paris est invaincu pour le moment à domicile. Et c'est vrai que s'offrir le scalp du voisin d'à côté, c'est pas mal. Donc je pense que le Stade Français est en mesure de le faire, surtout que le Racing a quelques petits pépins dans son effectif. Je suis pas certain non plus qu'ils aient mis la très 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 grosse équipe. Donc une victoire du Stade Français pour moi.
Après au niveau de l'écart, qu'est-ce que tu vois? Tu vois quand même un match
qu'il faut aller chercher. C'est quoi la cote de Paris?
La cote de Paris, c'est 1,32 et la victoire du Stade Français entre 1 et 12, l'écart entre 1 et 12 points, c'est 2,40 par exemple.
C'est pas mal ça.
Ouais,
ça joue. C'est pas mal. 2,40, c'est une jolie cote.
Est-ce que tu crains que le Racing fasse un peu comme Toulouse a fait la semaine dernière? Est-ce qu'il pourrait y avoir une impasse cet après-midi? C'est un derby quand même, hein. On fait pas un pas sur le derby.
On peut se dire que le Racing fait tourner. Après, ils ont quand même un très bel effectif, même si je le répète, il y a des blessés. Et puis ils ont perdu un match à domicile, ce qui n'était pas le cas du Stade Toulousain quand ils sont allés à Montpellier, puisqu'ils avaient fait le plein à l'extérieur avec un nul et une victoire à l'extérieur à Grenoble. Le Racing lui a déjà perdu chez lui, c'était face à Clermont. Donc ils ont quand même un déficit de points qu'il faut essayer de combler. Plus une rivalité face au Stade Français, donc une impasse totale, peut-être pas, mais c'est vrai que l'état des forces en présence pour le Racing leur permet peut-être pas d'aligner l'Amérique. Et puis attention, le Stade Français, c'est du très sérieux cette saison.
Oui. Une seule défaite, on le rappelle, à Clermont, 42-20, sinon c'est un sans faute pour le Stade Français pour l'instant.
Mm-mm. Un sans faute, oui.
Très bien. Match à suivre donc à partir de 16h50 cet après-midi. Merci Monsieur Lombard. Bon
Merci
match
Thomas.
Cet après-midi.
Allez, hein, salut les amis.
Stade Français, le Racing, c'est deux anciennes équipes. Hein.
Christophe.
Thomas, il a porté le maillot des deux équipes. Oui.
J'ai la réponse à ta question. On ne peut pas parier sur les matchs, sur les duels de Ryder Cup, malheureusement. Seulement sur le vainqueur final. Si vous pensez que les États-Unis peuvent gagner, c'est intéressant. C'est 14 hein, la cote.
Évidemment,
on ne va pas parier dessus. L'Europe, c'est, je te le disais, c'est 1,02. Ça vaut rien du tout.
Aucun intérêt.
Oui, d'accord. Mais même pas sur un score. C'est-à-dire qu'on ne pourrait pas dire, on peut pas parier sur un
non,
score final.
C'est soit
comme au tennis.
Europe,
tu ne donnes pas le nom du vainqueur, mais tu donnes le score.
C'est soit Europe, soit États-Unis, soit match nul à 15. Mais bon, le nul, c'est là aussi peu probable.
Oui.
Très bien, on passe à l'autre événement du jour, les championnats du monde de cyclisme qui ont donc débuté ce matin à Innsbruck et qui s'achèveront aux alentours de 17h. Quels sont les grands favoris de ce maillot arc-en-ciel?
Qui est le grand favori à ton avis, toi qui aimes le vélo?
Je pense que Julien Alaphilippe doit faire partie des grandissimes favoris.
C'est le favori, à 4,20 la cote est tout de même intéressante hein, pour donc cette course en ligne à Innsbruck. On est avec Arnaud Souk d'ailleurs qui suit la course pour nous en Autriche. Salut Arnaud.
Salut Benoît.
On rappelle 252 km, 4670 mètres de dénivelé positif et un mur final incroyable avec une pente à un moment à 28%. Déjà un point sur la course, il y a des échappés, il y a pas mal d'avance déjà pour les échappés.
Ouais, il y a 11 échappés parmi eux, notamment Tobias Ludvigsson, mais a priori cette échappée, j'ai quelques petits doutes sur le fait qu'elle aille au bout. 140 km à parcourir effectivement pour cette échappée qui possède 15 minutes et 57 secondes d'avance sur le peloton qui pour l'instant n'a pas bougé hein, tout simplement. Pour revenir, oui, sur les favoris, effectivement, en discutant un petit peu à droite à gauche ici
favori,
avec.
C'est Thibaut Pinot. C'est Thibaut Pinot ton favori. Hein.
Pourquoi Arnaud, tu dis ça, Christophe?
La semaine dernière. Non, parce oui, qu'on non, avait, mais on a discuté tous les deux. Oui. On a eu débat la semaine dernière. Alors, et toi, tu penses que Thibaut est plus à l'aise sur ce terrain que Julien?
Alors, ça dépend en fait. Tout dépend de ce qui va se passer avant, parce que effectivement, il y a l'enfer d'Oettinger à la fin, cette côte de Grammart-Botten. C'est 2 800 km avec des passages jusqu'à 28%. Donc, en soi, cette côte, elle correspond parfaitement aux qualités de Julian Alaphilippe ou de l'Anglais Simon Yates. Le problème, c'est qu'il y aura eu 8 ascensions avant, et c'est un parcours qui, a priori, profite quand même un petit peu et plus profitable, on va dire, à Thibaut Pinot, à Romain Bardet, à un coureur comme Alejandro Valverde, comme Vincenzo Nibali ou un Primoz Roglic. Par exemple pour la Slovénie. Après, c'est vrai que si Julian Alaphilippe arrive avec les meilleurs en bas de la toute dernière côte, c'est incontestable, ça sera soit pour lui soit pour Simon Yates a priori.
Arnaud, ça ressemble plus à une grande classique type Liège-Bastogne-Liège ou à une grande étape de montagne du Tour de France, ce championnat du monde?
Ça ressemble plus à une classique hein. Clairement c'est clair que on est dans des dénivelés. Par exemple, tu parles de Liège-Bastogne-Liège, la déclivité positive totale sur Liège-Bastogne-Liège cette année, c'était 4000 mètres de dénivelé positif. Là, on est sur 4670 mètres. On a 12 ascensions sur Liège-Bastogne-Liège, on avait 11 ascensions. C'est vrai que c'est un parcours effectivement qui ressemble plus à une classique, aussi parce qu'elle est extrêmement longue, cette épreuve des championnats du monde. On a 265 km cette année avec le départ fictif compris. On aura même d'ailleurs beaucoup plus l'an prochain, 284 km dans le Yorkshire en Angleterre, ce qui sera d'ailleurs du jamais vu depuis plus de 40 ans. Mais c'est tellement long qu'on ne peut pas le comparer non effectivement à une étape du Tour de France. Cette année, si je ne raconte pas de bêtises, la plus grosse étape de montagne du Tour de France était entre Lourdes et la Reims, et c'était 201 km seulement. Donc c'est vrai que voilà, il y a tout un tas de choses qui font que ça n'est pas comparable et dans l'approche aussi pour les coureurs, c'est pas comparable.
Alors derrière Alaphilippe, ouais. Messieurs, on retrouve Alejandro Valverde hein, qui est l'autre grand favori à 5,20, et après les cotes s'envolent
et Simon Yates aussi hein.
Évidemment les frères Yates,
Simon surtout, Yates à Simon. 11,
Adam Yates à 10, donc tu privilégies plutôt Simon apparemment.
Sur l'état de forme, Simon Yates me paraît être un meilleur pari qu'Adam Yates, oui.
Et toi qui as envie de jouer Pinot, c'est 14 hein, là aussi il y a un bon coup à jouer peut-être.
Ah oui. Écoute,
et il en rêve en plus de ce maillot arc-en-ciel. On verra du moment qu'il y a un Français avec le maillot arc-en-ciel.
Voilà, exactement.
Peu importe, oui, ils en rêvent tous.
Et on en rêve tous. Merci Arnaud. On te retrouve tout au long de l'après-midi pour nous faire vivre ces championnats du monde. Avant de passer à la Formule 1, dans un instant, un petit mot avec Anthony Reich qui se trouve sur le parcours de cette dernière journée de la Ryder Cup. Anthony, où en sont nos Européens? Ils tiennent toujours la baraque face aux Américains?
Oui, Christophe, ils ont pris les devants dans deux parties. Quatre parties sont lancées. La première est donc menée par Rory McIlroy. La quatrième, c'est Yon Ram qui vient de remporter le premier trou face à Tiger Woods. Le jeune espagnol rookie sur cette Ryder Cup est vraiment dans les clous. Et puis, c'est dans la troisième partie que les Américains mènent avec Webb Simpson.
Merci Anthony, là aussi on suit cette dernière journée de la Ryder Cup. Le dernier événement sportif du jour, ce sera dans quelques minutes avec le départ du Grand Prix de Russie de Formule 1. Benoît est un grandissime favori, même s'il n'est pas en pole position tout à l'heure, c'est Lewis Hamilton forcément.
Effectivement, 1,55 pour Lewis Hamilton, 2,90 pour Valtteri Bottas, c'est pourtant Bottas qui va partir en pole devant Hamilton et Vettel. Et la Dream Team Formule 1 est avec moi en studio, et oui. Adrien També, Jean-Luc Roy, salut messieurs.
Salut Benoît, salut Chris, bonjour à tous.
Tout est réglé chez Mercedes, on va laisser passer Hamilton, il va y avoir une histoire au stand, et puis finalement il va s'imposer devant son coéquipier, c'est comme ça que ça va se passer, non?
Alors pas au début, hein, parce que c'est clair que c'est dangereux. Je pense qu'ils vont essayer de faire un mur gris, tu vois, pour empêcher par exemple une Ferrari partie du troisième rang, c'est ce qu'avait fait Bottas l'an dernier. Il partait troisième, il a gagné, il a piqué tout le monde au freinage, donc on va attendre un petit peu. Je pense qu'après, oui, ça va rentrer dans l'ordre, c'est clair.
Ça peut peut pas échapper à Mercedes en tout cas.
Elle a une particularité, cette première ligne droite de départ, elle est très longue et on a vu l'année dernière un Valtteri Bottas capable de prendre l'aspiration dès le départ. En fait, on a une vitesse assez élevée, c'est assez rare dans la saison pour le souligner. Et si la Ferrari arrive à faire un bon départ, ils pourront peut-être prendre l'avantage. À noter que cette grille de départ a été resurfacée sur les deux premières lignes, mais par exemple Sébastien Vettel se retrouve avec les pneus avant sur une partie neuve avec plus de grip, alors que les roues arrière vont être sur une vieille partie comme tout le reste de la grille. Donc peut-être un désavantage, il commençait déjà à se plaindre l'allemand.
Mais si on met une pièce, évidemment on joue Hamilton à 1,55.
Oui, bah c'est clair que de toute façon c'est calculé comme ça. Toto Wolff l'a dit aussi, ennuyé par la stratégie, mais bon, on a bien compris que ça, comme tu l'as souligné, on en parlait hors antenne, hein, de toute façon ils vont pas faire ça tout de suite, ils vont essayer de rester devant, ça c'est leur devoir, c'est leur mission, empêcher Ferrari de s'infiltrer comme l'évoquait Adrien, et puis après ça va se régler. Il y a un arrêt qui est prévu au stand normalement, on va voir qu'il va y avoir un undercut pour un et pas pour l'autre ou quelque chose dans ce genre là malheureusement je pense que c'est écrit. Puis Mercedes s'est toujours imposé là-bas, deux fois pour Hamilton, une fois pour Bottas, une fois pour Rosberg, qu'il faut pas oublier. Oui. Donc je vois pas très bien comment Mercedes ne s'imposerait pas à Sochi.
Bon, tout le monde prendra le départ, hein. C'est pas comme dans la queue de d'hier. Hein.
Tu as raison de le souligner parce que il y a une polémique là, ça y est, bah oui, qui est énorme. Hein. Bah, moi, tout de suite, j'ai bondi, évidemment, parce que c'est inadmissible quoi, d'avoir une Q2 comme ça qui ne sert à rien avec les 5 pilotes, puisque Renault a préféré partir 11e et 12e qu'essayer de partir 5e et 6e. Enfin, c'est invraisemblable. Voilà.
Bon, on suit ça avec vous dans quelques instants, puisque le départ de ce Grand Prix sera donné dans 10 minutes. Merci Benoît.
Merci à vous.
PMU.fr, numéro 1 du pari en termes d'enjeux en 2017, voire conditions sur PMU.fr. Jouer comporte des risques, appelez le 09 74 75 13 13, appel non surtaxé.